VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Gérondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République centrafricaine, de violents combats ont repris au quartier PK5 de Bangui.
Oui, c'est des balles qui sifflent en ce moment. Il y a la ministre d'un côté et puis il y a ceux qui défendent le quartier de l'autre.
Les Nations Unies dénoncent dans un rapport des horreurs dans les prisons libyennes, des conditions de détention déplorables, mais aussi des cas de torture et de meurtre. Guerre commerciale Chine-États-Unis, l'empire du milieu porte plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Le président américain Donald Trump en colère après la perquisition du FBI dans les bureaux de son avocat personnel. Et dans notre dossier du jour, on parlera du tête-à-tête annoncé entre le président ivoirien Ouattara et Bédié.
Les Ivoiriens sont aux antipodes de ces accords de couloir, de ces accords secrets, confidentiels.
Dans la Minute Éco, Apple dit fonctionner à 100% aux énergies renouvelables et le quart de finale retour de la Ligue des Champions dans la page sport, mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, de violents combats ont repris au quartier PK5 de Bangui. Dimanche dernier, un groupe d'autodéfense avait lancé des attaques contre les casques bleus de la MINUSCA. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. Idriss Fall a joint Lazare Djader, président du collectif 236 km 5 pour la paix.
L'avion est sifflement des balles. Oui, c'est des balles qui sifflent en ce moment.
Les affrontements opposent qui et qui?
Il y a la ministre d'un côté et puis il y a ceux qui défendent le quartier de l'autre.
Et c'est le groupe de force?
Non, c'est confondu.
Et les combats durent depuis combien de temps?
Bon, ça fait depuis plus de deux heures.
Pour le moment, au combat, les gens sont enfermés chez eux?
Je suis à la maison, voilà. Bon, les gens sont enfermés chez eux, mais il y a des morts déjà parce que tous les quartiers qui longent l'aéroport, il y a la population qui a fui pour venir à l'intérieur du PK5.
Et qu'est-ce qui a causé ces affrontements? On dit que les groupes d'autodéfense du PK5 avaient mené des attaques.
Ben non, mais c'est la suite de ce qui s'est passé dimanche.
L'ONU s'était juré de désarmer le groupe de celui qui se fait appeler Force.
Oui, c'est ça, oui.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un chef milicien, ses deux gardes du corps et une femme ont été tués dans un assaut de l'armée au sud Kivu. Le chef rebelle Karakara et deux de ses gardes du corps ont été tués par l'armée près d'Uvira et de la frontière du Burundi, a déclaré le porte-parole adjoint de l'armée dans cette région. Et du côté des prochaines élections congolaises, la commission électorale coréenne a publiquement déclaré qu'elle n'apportait aucun soutien officiel à son homologue congolais qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour les élections du 23 décembre. Elle fait savoir qu'elle soutient l'ambassadrice des Nations Unies à l'ONU, Nikki Haley, et l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa qui se sont opposés à ces machines. Au total, plus de 40 millions d'électeurs sont inscrits pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Au Gabon, trois partisans présumés d'un opposant turc, Fethullah Gulen, arrêtés à Libreville et sont ramenés en Turquie. Le président turc poursuit sa purge contre les complices supposés de la tentative du coup d'État survenue en juillet 2016. Le porte-parole du gouvernement turc a annoncé la semaine dernière que la tentative du coup d'État, que les services secrets turcs ont empaqueté 80 partisans de Gulen dans 18 pays différents et les ont ramenés en Turquie. En Gambie, trois personnes soupçonnées du meurtre d'un membre d'un comité de protection de la forêt de la région sénégalaise de Casamance ont été arrêtées, selon le porte-parole de la police gambienne. Ils sont actuellement détenus au poste de police de Bansang, dans le centre du pays. L'exploitation illicite et le trafic de bois, souvent via le territoire gambien, est à l'origine de violences en Casamance, région du sud du Sénégal. Et au Nigeria, 14 personnes ont été brûlées dans un incendie dans un camp de déplacés du nord-est du pays où sévit Boko Haram. Pendant 3 jours, des foyers de feu se sont propagés dans un camp qui accueille quelque 55 000 personnes à l'est de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Le bureau de coordination au Kenya Au moins 17 personnes sont mortes et une quarantaine ont été blessées dans l'accident d'un autocar. Le conducteur du car a perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter une collision avec un autre véhicule sur le pont enjambant une rivière du comté de Narok dans le sud-ouest du pays. Le président soudanais Omar el-Béchir a ordonné la libération de tous les détenus politiques emprisonnés dans son pays en janvier. Des manifestations pour protester contre la hausse des prix avaient été réprimées par la police dans plusieurs villes du Soudan. Des centaines de dirigeants de l'opposition, de militants des droits de l'homme et de manifestants avaient été arrêtés. En Libye, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont détenus dans des conditions horribles par des groupes armés. Ces derniers leur font subir des tortures et autres mauvais traitements, selon un rapport de l'ONU. Des précisions de John Lyndon.
Des informations recueillies par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU et la mission d'appui des Nations Unies en Libye ont révélé une généralisation de la détention prolongée et arbitraire et des violations systématiques des droits de l'homme en détention. À partir de 2014, des groupes armés ont arrêté des membres de factions rivales, mais aussi des journalistes, hommes politiques et même du personnel médical, indique le rapport. Ce rapport met à nu non seulement les abus et les violations que subissent les Libyens privés de leur liberté, mais aussi l'horreur de telles détentions, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon les chiffres datant d'octobre 2017, quelques 6500 personnes croupissaient dans les prisons en Libye. Le rapport publié ce mardi ne fait pas cas des détentions abusives des migrants en Libye, devenue une plaque tournante pour des centaines de milliers d'Africains souhaitant rejoindre l'Europe.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a effectué une rare apparition publique en fauteuil roulant pour inaugurer une mosquée des extensions du métro d'Alger. Selon des images diffusées par la télévision publique, il a été élu pour un quatrième mandat en 2014, un an après un AVC. Son apparition intervient alors que le secrétaire général du Front de Libération Nationale lui a demandé de se présenter à un cinquième mandat à la tête de l'État lors de la présidentielle prévue en 2019. Et par ailleurs, l'Algérie soutient la reprise de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario pour résoudre le conflit du Sahara occidental, mais refuse d'y prendre part. C'est ce qu'a réaffirmé le chef de la diplomatie algérienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a porté plainte contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce pour contester la décision de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Jacques Aristide.
Concrètement, Pékin a demandé l'ouverture de consultations avec le gouvernement américain concernant certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium, d'après un document de l'OMC. En rétorsion aux taxes sur l'acier et l'aluminium, Pékin a déclenché le 2 avril dernier des mesures punitives contre 128 produits américains. Les consultations, qui se tiennent généralement à Genève et sont confidentielles, constituent la première étape du processus de règlement des conflits commerciaux prévu par l'OMC, un processus qui peut durer des années. En principe, l'accusé doit répondre à la demande dans les 10 jours. Dans un discours ce mardi, le président chinois n'a pas mentionné directement le spectre d'une guerre commerciale avec Washington. Xi Jinping s'est engagé à réduire considérablement cette année les tarifs douaniers chinois sur les importations d'automobiles et d'autres produits. Un ton conciliant, même après les menaces de son homologue américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d'importations chinoises.
Et ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a dénoncé une perquisition du FBI dans les bureaux de Michael Cohen, son avocat personnel, qui a payé une actrice de film pour adultes pour taire une liaison présumée avec M. Trump. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
C'est une honte, c'est une véritable honte, a tempêté le président Donald Trump. D'après Stephen Ryan, avocat de Michael Cohen, cette perquisition a été lancée en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. M. Ryan a dénoncé une perquisition inappropriée et inutile qui, selon lui, a abouti à la saisie de communications confidentielles entre l'avocat et son client. Les documents saisis ont trait au dossier Stormy Daniels, l'actrice de films pornographiques Afrique, d'après les médias américains. Elle dit avoir eu une liaison avec Donald Trump en 2006. Michael Cohen a admis avoir versé 130 000 dollars à l'actrice dans le cadre d'un accord de confidentialité quelques jours avant le scrutin présidentiel. Il a assuré que cette somme venait de ses propres fonds. M. Trump dit qu'il n'a jamais été au courant de ce versement. L'actrice a porté plainte pour faire invalider cet accord dit de confidentialité. Elle estime qu'il est nul puisque M. Trump ne l'a pas signé. L'enquête du procureur spécial tente d'établir l'existence d'une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et Moscou.
Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Maniarakita.
L'aide publique au développement des pays de l'OCDE au profit de l'Afrique a augmenté de 3% en 2017 et a atteint 29 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne a reçu plus de 86% de l'aide, soit 25 milliards de dollars. Cependant, la part des prêts a considérablement augmenté au détriment des dons. L'intérêt a été porté sur l'industrie et les infrastructures, sans les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Le géant de l'électronique Apple affirme fonctionner à 100% aux énergies renouvelables. Ceci concerne ses magasins, bureaux, centres de données et ses installations co-gérées dans 43 pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et en Inde. La firme réaffirme son engagement à combattre le changement climatique et à créer un environnement plus sain. Apple est la première entreprise mondiale par capitalisation boursière qui atteignait lundi 862 milliards de dollars. Les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles et désastres causés par l'homme ont totalisé 337 milliards de dollars en 2017. Les assureurs ont pris en charge 144 milliards de dollars. Les trois ouragans, Harvey, Irma et Maria, qui se sont abattus sur la Caraïbe et le sud-est des États-Unis, ont à eux seuls occasionné 217 milliards de pertes et 92 milliards de frais pour les assureurs. C'est la deuxième année la plus coûteuse pour les assureurs depuis les ouragans Katrina, Rita et Wilma en 2005.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Lionel Gaïma.
Bonsoir Raïssa.
Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions.
Les matchs sont actuellement en cours. À Manchester, les Citizens mènent Liverpool 1-0, tout comme l'AS Rome qui mène 1-0 Barcelone, alors qu'au match aller, il avait suivi une défaite de 1 but à 4.
Et à suivre ce mercredi, les deux derniers quarts de finale.
Contre le Real de Madrid, le technicien italien Massimiliano Allegri devra composer avec son défenseur Andrea Barzagli. Blessé, Federico Bernardeschi n'est pas non plus rétabli. Rodrigo Betancourt et Paulo Dybala sont quant à eux suspendus. La Juventus de Turin a 3 buts à remonter contre le Real de Madrid de Zinedine Zidane. Les joueurs du Bayern de Munich, sacré champion d'Allemagne samedi, sont concentrés avant ce match retour de Ligue des Champions de mercredi contre Séville, où il leur faudra confirmer la victoire 2-1 obtenue en Andalousie.
Et le jeu du Commonwealth en Australie.
En effet, l'athlète sud-africaine Caster Semenya a survolé ce mardi le 1500 mètres. Âgée de 27 ans, Semenya a déposé sans être inquiété ses adversaires dans le dernier tour pour l'emporter en 4 minutes 71 centièmes de seconde devant la Kenyane Beatrice Chepkoet à 2 secondes 38. Et la galloise Melissa Courtney à 2 secondes 73. Elle a amélioré le record d'Afrique du Sud et remporte ainsi sa première médaille aux Jeux de Commonwealth après ses titres mondiaux et olympiques sur le 800 mètres. Semenya, la grande favorite du 800 mètres à Gold Coast, dont les séries commencent ce jeudi.
Et Lionel, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
En effet, il ne reste plus qu'une place à prendre dans le Playoff NBA 2018. Après les qualifications d'Oklahoma City, San Antonio et la Nouvelle-Orléans, lundi, Minnesota et Denver s'affronteront mercredi pour le dernier billet. OKC s'est finalement imposé 115 à 93 à Miami. On se qualifiait de la soirée. San Antonio a dominé à domicile Sacramento 98 à 85. Et la Nouvelle-Orléans, enfin, a assuré son billet en battant la Californie, les Los Angeles Clippers 113 à 100. Dans les autres matchs de lundi, Kevin Love et LeBron James ont permis à Cleveland de s'imposer nettement à New York, 123 à 109.
Merci Lionel Gaïma.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Ici, aux États-Unis, à Washington, le passage de Mark Zuckerberg est à la une. Le fondateur de Facebook est entendu par plusieurs commissions du Sénat et de la Chambre des représentants aujourd'hui et demain. Cela fait suite au scandale de Cambridge Analytica qui aurait accédé de manière illégale aux données de 87 millions d'utilisateurs. Mark Zuckerberg s'en est déjà excusé, mais cela pourrait ne pas suffire. Abdourahman Dia.
Mark Zuckerberg admet qu'il s'est trompé et reconnaît son erreur.
Nous n'avons pas suffisamment eu une vue d'ensemble sur notre responsabilité. Et ça, c'était une grosse erreur. Oui, c'était mon erreur.
Et la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, est sur la même longueur d'onde que son patron.
Eh bien, nous avons commis de graves erreurs et nous en sommes conscients.
Mais Facebook refuse d'endosser seule la responsabilité. Écoutons Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et Sheryl Sandberg, chef des opérations.
Si Facebook en sait beaucoup sur vous, c'est parce que vous avez accepté de partager ces informations.
Il s'agit des données que les gens ont déjà listées publiquement.
Et il est clair que Mark Zuckerberg, en acceptant de faire face aux parlementaires, se défendra et tentera de prouver en même temps que son organisation se bat pour prévenir des incidents pareils. Une audition destinée en quelque sorte à rassurer. Joseph Jérôme, analyste au Centre pour la démocratie et la technologie à Washington, D.C.
Aux États-Unis, une bonne partie de ce qu'on met sur Internet, y compris sur les plateformes comme Facebook et les autres applications, tout ça s'autorégule en quelque sorte. Ce genre d'audition, ce type d'application effective, ce n'est pas très clair.
Résultat, les entreprises de technologie ne payent pas un grand prix pour leur mauvais comportement. Joseph Jérôme, du Centre pour la démocratie et la technologie.
La Commission fédérale du commerce avait réussi à soutirer une amende à Google, mais c'était seulement 20 millions de dollars, ce qui représente, je crois, les revenus de la compagnie en une demi-journée. Donc, les amendes sautent un peu comme le prix à payer pour faire des affaires.
Et ces affaires impliquent toujours le partage des données avec les utilisateurs tiers. En dépit du manque de transparence, Sheryl Sandberg de Facebook continue de vanter les bienfaits de l'utilisation des réseaux sociaux.
Nous croyons en un monde où les gens peuvent partager et expérimenter des choses ensemble, mais nous n'avions juste pas assez pensé au côté négatif.
Ce qui est sûr, après 2 jours d'audition au Congrès, Mark Zuckerberg pourrait repartir de Washington avec une idée de ce qui pourrait attendre Facebook et les autres réseaux sociaux s'ils ne prennent pas plus au sérieux la protection des données personnelles des utilisateurs.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le programme international Flintlock, lancé en 2005, a débuté hier au Niger. Cette opération dirigée par AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, implique les 12 pays membres du G5 Sahel, le Sénégal, le Cameroun et les 12 partenaires occidentaux. Pour en parler, John Lindon, adjoint à Stuttgart en Allemagne, Mustafa Chaouj, le porte-parole de l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique.
Flintlock a commencé hier, le 9 avril, et va durer jusqu'au 20 avril. Environ 1900 représentants de 20 pays africains et occidentaux participeront à l'édition de cette année. Les activités seront menées au Niger, au Burkina Faso, aussi bien qu'au Sénégal.
Qu'est-ce que vous faites concrètement pendant ces opérations?
D'abord, Flintlock est un exercice annuel qui concerne les militaires et les agences d'application de la loi. Il est dirigé par les Africains eux-mêmes. Et depuis 2005, l'exercice vise à renforcer les forces de pays partenaires clés d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que les forces spéciales occidentales. Flintlock est le plus important exercice de forces spéciales organise le commandement des États-Unis pour l'Afrique. L'exercice vise à renforcer les capacités des pays partenaires clés de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, protéger leurs frontières et assurer la sécurité de leur population. En outre, c'est un exercice qui renforce les partenariats entre les forces d'opérations spéciales et les forces de l'ordre des pays d'Afrique, des États-Unis et de l'Ouest, et renforce aussi leur capacité à travailler ensemble, leur interopérabilité, pendant qu'ils participent aux opérations multinationales en cours ou en réponse aux crises.
Alors, vous avez parlé de trois pays concernés, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso. Comment s'est opérée la sélection ?
Nous menons des conférences de planification de l'exercice chaque année. Durant ces conférences, on demande aux pays partenaires pour savoir ceux qui sont intéressés à accueillir l'exercice et on fait la détermination basée sur les demandes.
Et quand est-ce que les prochaines opérations sont prévues et est-ce que vous savez où est-ce qu'elles auront lieu?
La planification de l'édition 2019 de Flintlock est en cours. Et le pays hôte n'a pas encore été déterminé. Une annonce officielle détaillée sera transmise éventuellement après la fin de l'édition Flintlock 2018.
L'Afrique fait face à de nombreux fléaux. Le djihadisme, vous en avez parlé. En quoi est-ce qu'une opération comme celle que vous menez peut aider à éliminer ce genre de fléau?
Comme vous savez, le terrorisme est une menace transfrontalière, donc il faut vraiment avoir une réponse régionale pour pouvoir résoudre le problème. L'exercice Flintlock vise à développer, à renforcer les capacités des pays partenaires africains et d'autres pour pouvoir faire face à cette menace transnationale.
Et c'était Moustapha Gjaouge, le porte-parole de l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Et en Côte d'Ivoire, un tête-à-tête attendu aujourd'hui entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié à la une. L'agenda n'a pas été communiqué au public, mais les deux hommes se rencontrent au moment où leur alliance semble vaciller. Pour en connaître l'enjeu, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le leader de l'ONG locale Agir pour la démocratie, la justice et la liberté, Fernand Julien Gauze.
Cette alliance semble tenir toujours parce que c'est d'abord une alliance stratégique et c'est une alliance politique. Stratégique parce que elle tente à conforter non seulement la conservation du pouvoir, mais également à en partager le bénéfice. Elle est politique aussi parce qu'il s'agit de perpétuer la mémoire, donc de conserver les acquis de l'oufouettisme.
Au regard de la décomposition électorale, est-ce que le front uni est-il encore possible?
Vous avez vu, par exemple, au niveau des sénatoriales, il a suffi simplement que le PDCI soit d'accord pour que les sénatoriales se tiennent. Si le PDCI n'avait pas été d'accord, le RDS seul ne serait pas allé au front. Il y a encore peut-être d'autres batailles à gagner entre les deux alliés. Et malgré les apparences, le bruit qu'on entend de la part de certains soutiens, de certains hommes forts de part et d'autre, l'essentiel me paraît préservé et sauf. Hein.
Mais le PDCI attend son tour aux prochaines présidentielles.
La question est de savoir s'il est convaincu, lui, PDCI, que c'est vraiment son tour et qu'il s'en donne les moyens. Mais je pense que les deux leaders des deux partis savent où ils vont et quels sont les accords secrets.
Bédié, à quelle marge de manœuvre actuellement pour embarquer sa famille politique?
Il a une marge de manœuvre officiellement étroite. Parce que, basé sur une exigence que les troupes, les lieutenants, les soutiens rendent incontournable, je pense qu'il y a d'autres négociations qui se mènent dans une perspective à plus long terme, qu'on croit. Et les deux alliés tiennent la bonne corde et ils ne veulent pas lâcher prise.
Et brièvement, que pensent les Ivoiriens dans tout cela?
Les Ivoiriens sont aux antipodes de ces accords de couloir, de ces accords secrets, confidentiels. Ils se contentent de ce que les apparences leur servent, à savoir qu'il y a un apparent désaccord entre les deux leaders et que chacun campe sur une position qui va dans le sens de l'intérêt de son parti. Mais on a vu le même débat se faire hein, pendant les consultations, au moment des consultations présidentielles de 2015. Il a suffi d'une déclaration du président président du PDCI pour que les choses en aillent différemment. C'est ce qui, à mon sens, risque encore de se passer cette fois-ci. Et ils ne sont pas comptables de ce qu'affirment leurs différents lieutenants. La preuve, le président Bédia a nommé le vice-président d'un camp comme le vice-président du PDCI, coordonnateur de tous les vice-présidents. Et le secrétaire exécutif du PDCI a déclaré ces derniers jours que la négociation sur la question du parti unifié est entre les mains du vice-président d'un camp. Le porte-parole officiel du PDCI est le ministre Adjoumani, qui est très proche des vues et de la cause du président Ouattara.
C'était Fernand Julien Gauze en Côte d'Ivoire.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sim Soloumami à la mise en onde, Dan Crafton à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Restez à l'écoute, excellente suite de programme. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En vue de limiter les ressources qui attisent la guerre civile au Soudan du Sud, le département du commerce des États-Unis a imposé des exigences de licence à 15 entités pétrolières sud-soudanaises dont les revenus alimentent la crise en cours. Cela signifie que l'exportation, la réexportation et le transfert par ces entités de tout produit ou article américain sont désormais soumis à une licence d'exportation. Selon la Banque mondiale, le Soudan du Sud est l'un des pays le plus dépendants du pétrole, l'or noir représentant presque la totalité de ses exportations et environ 60% de son PIB. À travers leur action, les États-Unis espèrent accentuer la pression en vue de mettre un terme à 5 ans de guerre civile dans ce pays et la crise humanitaire qui en a résulté. En décembre 2013, en moins de 18 mois après avoir déclaré son indépendance, le Soudan du Sud s'est trouvé confronté à une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce conflit qui s'est transformé en une guerre civile a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. L'économie a été dévastée, avec en plus une prévalence des abus des droits humains, de la famine et de la malnutrition. Les violences ont fait près de 2 millions de déplacés internes et plus de 2 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Les 15 entités visées par les sanctions américaines incluent les ministères sud-soudanais du pétrole et des mines et la compagnie pétrolière d'État Nile Petroleum. Sont également visées Dar Petroleum Operating Company, la compagnie de distribution pétrolière Niak et Fils, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services et Sud Petroleum Operating Company. Ces compagnies sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert. Malheureusement, le gouvernement sud-soudanais et les responsables corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud au lieu d'assurer le bien-être et fournir l'aide alimentaire d'urgence en faveur du peuple sud-soudanais. Le gouvernement du Soudan du Sud peut faire mieux, a dit Helen Howard. En tant que principal fournisseur d'aide au Soudan du Sud, les États-Unis sont fiers de défendre les valeurs humanitaires et de fournir une assistance vitale. Le gouvernement du Soudan du Sud ne doit pas gaspiller cette générosité, mais plutôt prendre des mesures concrètes pour satisfaire les énormes besoins du peuple sud-soudanais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.